France Info.
Bonjour William Gacosta.
Bonjour.
Et à la une, les mots déchirants d'Amin Kessassi.
Mon frère est dans un cercueil à ma place, déclaration au micro France Info du militant anti-narcotrafic dont le frère Mehdi a été assassiné la semaine dernière, vous allez l'entendre. À la une également ce matin, les États-Unis qui proposent un nouveau plan de paix à l'Ukraine, calqué point par point sur les demandes de Moscou. Le froid qui s'empare du pays, on l'entendait avec Christine, avec son lot de neige et de verglas, reportage à venir dans la Loire qui grelotte. Et puis des bisous, nos ancêtres s'en faisait déjà sur la bouche il y a 20 millions d'années selon des chercheurs.
Bon réveil, bonne journée sur France Info.
L'immense émotion et le deuil font trembler sa voix, mais pas sa détermination à mener son combat contre le narcotrafic jusqu'au bout. Amin Kessassi s'exprime donc ce matin sur France Info. Lui, le militant marseillais qui a perdu son frère, tué par balle la semaine dernière, et selon les autorités, il a été visé en raison de l'engagement de son frère.
Le premier sentiment que j'ai, c'est la culpabilité. La culpabilité de me dire que mon frère est coupable d'une chose, c'est d'être mon petit frère. Ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à Mehdi Kessassi, c'est d'être le frère d'Amin Kessassi et de me dire que mon frère est aujourd'hui dans ce cercueil, à ma place. C'est quelque chose que j'arrive pas à supporter.
Amin Kessassi au micro France Info de Paul Larouturoux.
Entretien dont on va entendre un large extrait dans une dizaine de minutes et à retrouver dès maintenant dans l'émission Pour Info sur la chaîne YouTube de France Info.
Aujourd'hui, les ministres de l'Intérieur et de la Justice seront à Marseille pour rencontrer la famille Kessassi devenue martyr de cette guerre contre le trafic de drogue dans la ville, des réseaux qui ne se limitent plus aux seules grandes agglomérations. Voilà un exemple qui interpelle. Le puissant cartel mexicain Sinaloa a choisi le village du Val dans le Var pour stocker sa marchandise. Antoine Lifo, vous avez rencontré le maire sans étiquette de cette commune qui n'aurait jamais imaginé qu'un cartel puisse agir chez lui.
Ce matin du 18 juin 2024, Jérémy Giuliano n'est pas prêt de l'oublier.
On a saisi un peu plus de 200 kg de drogue de synthèse. Plus de 200 kg, c'est l'équivalent de 11 millions d'euros.
190 gendarmes, douaniers découvrent alors cette drogue dans des box à l'entrée du village.
C'est un endroit où je passe tous les jours devant, le matin, le soir, quand je vais à la mairie à pied. Et donc ça se faisait à la vue de tout le monde et personne ne voyait rien.
C'est là que ce maire de 37 ans comprend que son village est depuis deux ans ce qu'il appelle une plateforme Amazon du puissant cartel mexicain Sinaloa.
Il y avait deux box, un box qui permettait d'acheminer en fait la marchandise qui arrivait de Chine pour aller en laboratoire dans une villa de l'arrière-pays. Et ensuite, ça revenait dans le deuxième box qui était un box de matières prêtes à être vendues et commercialisées de manière illégale.
Après cette saisie, une quinzaine d'interpellations et la surprise des habitants de ce petit village de Provence, devenu point stratégique.
C'est un village qui est très calme, qui est à 5 km de l'autoroute de l'axe qui relie Marseille-Nice. Et donc forcément, cet axe autoroutier est stratégique. Et voilà, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, ce type d'installation peut se passer dans des petites communes, là où il était dans les grosses communes.
Et ce maire qui compte se représenter attend que plus de compétences soient confiées à sa police municipale pour lutter contre le trafic de drogue.
Témoignage recueilli par Antoine Lifo.
Et une déclaration à présent qui fait beaucoup réagir, celle du chef d'état-major des armées.
Elle a même fait bondir des responsables politiques. Le général Fabien Mandon l'a prononcée au congrès des maires de France.
On a tout le savoir, toute la force économique, démographique pour dissuader le régime de Moscou d'essayer de tenter sa chance plus loin. Ce qu'il nous manque, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut, dire les choses, si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque.
Le chef d'état-major des armées qui disait aux maires lors de leur congrès de préparer les esprits de leurs administrés. Alors des réactions dans les rangs de la gauche. D'abord, Jean-Luc Mélenchon exprime son désaccord total. Oui à la défense nationale, mais non au discours va-t-en-guerre insupportable. C'est ce qu'écrit cette fois le chef de file des communistes, Fabien Roussel. Il n'a pas la légitimité pour tenir ses propos, écrit Sébastien Chenu du Rassemblement National. Il dénonce une faute du général. Le Hamas dénonce une escalade dangereuse après de nouvelles frappes menées hier par Israël dans la bande de Gaza. Une trentaine de personnes ont été tuées selon la défense civile de l'enclave. Un mois après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, l'État hébreu de son côté accuse le Hamas d'avoir violé les conditions de la trêve et d'avoir riposté à des tirs. Les États-Unis proposent un nouveau plan de paix pour l'Ukraine et Washington semble s'aligner point par point sur ce que réclame la Russie. Selon des médias américains très informés, mais aussi d'après un haut responsable ukrainien contacté par l'agence France Presse, presse, les Américains poussent Kiev à céder ses territoires occupés, Bastien Bory, et même à diviser par deux son armée en échange d'une sécurité américaine et européenne.
Le texte tient sur une trentaine de points, mais pas sur les lignes défendues par l'Ukraine. Premier prix qu'il lui faudrait payer, celui de la reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée et sur la totalité du Donbass, ce que le président Volodymyr Zelensky et la plupart des chefs d'État dans le monde ont jusque-là refusé. Autre levier, la réduction des forces militaires en présence. Côté ukrainien, 400 000 hommes autorisés, une division par deux des effectifs actuels. Côté Donbass, le Kremlin accepterait la démilitarisation des deux oblasts de Donetsk et Lugansk et donc le retrait de ses troupes au sol. Dernière demande controversée, celle de la cession par Kiev de territoires non occupés aujourd'hui par l'armée russe dans les régions de Kherson et Zaporijja. Oui, la tentation de la paix semble forte pour un Volodymyr Zelensky en panne de résultats militaires et fragilisé par des affaires de corruption dans son clan. Mais le pari politique serait pour lui risqué, car en Ukraine, l'opinion publique rejette encore à une très large majorité l'hypothèse de concession territoriale à la Russie.
Bastien Bory, en Ukraine, où, on le rappelle, 26 personnes ont perdu la vie hier dans une frappe russe sur l'ouest du pays.
Il est 7h06 sur France Info. Quelle est loin la douceur des dernières semaines.
Cette fois, c'est sûr, le froid s'est bien installé sur une grande partie de l'Hexagone, avec de la neige en plaine, du verglas par endroits, des gelées dans la Loire, par exemple. Aurélie Jacquan, la nature et les agriculteurs sont passés en mode hiver.
Bonnet sur la tête, doudoune et gants, Anne-Marie vient de faire quelques courses.
Oh, ben moi j'ai acheté du potimarron, là, de la mâche, c'est l'époque, et puis du chou-fleur et du fenouil. Bon.
Vous avez une recette un peu anti-froid ?
Ah, de la soupe.
Là, une petite soupe de potimarron,
par exemple.
Des légumes qui peuvent geler, les sols ne sont pas encore durs, mais il faut vite récolter.
On a passé toute la journée du lundi à rentrer beaucoup de légumes en chambre froide.
C'est plus de boulot pour Nathalie, productrice à Gramont.
Les carottes, on les laisse en terre. Après, on rentre tout ce qui est betterave rouge. Ben là, les choux-fleurs, on en a rentré pas mal.
Oui, sinon, vous pouvez pas les vendre une fois que c'est gelé, c'est foutu.
Et sinon, c'est mort.
Ce qui a surtout surpris les agriculteurs comme Ismaël, c'est la chute brutale des températures.
D'habitude, le froid arrive un peu plus tôt, début novembre, et plus progressif. C'est ce qui est un peu marquant cette année, c'est que bah voilà, la semaine dernière, on avait encore des températures au-dessus de 10, quoi. Donc les bâtiments sont pas forcément prêts.
Il élève des poules et des bovins à Saint-Éan.
Il faut savoir que les bêtes, notamment les bovins, peuvent supporter des moins 10 sans souci dehors, du moment qu'ils ont une haie pour s'abriter du vent, et qu'il y a de l'eau. Le souci, c'est l'eau, quoi. En fait, L'eau gèle.
Alors pour le moment, il n'a pas encore dû casser la glace ni allumer les résistances dans ses bâtiments.
Un reportage ici, Saint-Étienne-Loire, d'Aurélie Jacquan. Et puis Jérôme, par les temps qui courent, on en a bien besoin. On va parler de kiss, de bisous, vous l'avez compris, hein, plus précisément de bisous sur la bouche, car une étude de chercheurs d'Oxford assure que nos ancêtres, eh bien, ils s'embrassaient déjà il y a plus de 20 millions d'années, Gaëlle Joly.
Pour remonter cette piste inattendue, les scientifiques ont analysé les comportements des chimpanzés, des bonobos ou des orang-outans, ces espèces qui ont l'habitude de s'embrasser, pour estimer par une approche statistique si leurs ancêtres partageaient cette pratique définie sans grand romantisme comme un contact bouche à bouche non agressif et sans transfert de nourriture. Verdict, le baiser est apparu chez les grands singes il y a 21 millions d'années et il s'est transmis au fil des millénaires jusqu'aux néandertaliens qui s'embrassaient très probablement eux aussi, note l'étude, et partageaient même des baisers et bon nombre de microbes buccaux avec l'Homo sapiens lors de leur cohabitation sur Terre. Mais le mystère demeure, pourquoi dès lors s'embrasser sans avantage reproductif évident et un risque de s'exposer aux maladies? Les bisous pourraient aussi remplir une fonction d'affiliation et d'apaisement des tensions, une manière de renforcer les liens sociaux, notent les scientifiques.
Gaëlle Joly, notre correspondante à Londres, sur la longue histoire du béco, du smack, du patin cette saison, hein, avec l'hiver qui approche.
Merci William Gay-Costa, tiens, on sort la pelle à neige avec vous, Christine Peignard. Allez-y.
Effectivement, enchaînez. Il neige, c'est pas facile. Il neige effectivement jusqu'en plaine, hein. Nous avons quelques flocons en Normandie, puis du nord-est jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu'en plaine. Attention sur la route, ça peut glisser, d'autant que nous avons encore quelques gelées. On peut avoir du verglas par endroit. En Méditerranée, on garde le soleil et puis des éclaircies se développeront de l'Occitanie à la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à Paris. Les températures cet après-midi, on reste dans le froid, souvent entre 4 degrés et 8 degrés à peine.